Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Thomas Soto, bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Avec ce soir, par ordre d'apparition, 18h15, Ségolène Royal pour parler du projet de loi sur le séparatisme notamment. 18h30, comme chaque mercredi, l'œil de Valérie Trier-Weller qui portera un bonnet vert ce soir. C'est celui des Pères Noël du Secours Populaire. 18h35, Erin Doherty, c'est la discrète mais très efficace patronne du journal Elle. Elle qui fête ses 75 ans. À partir de 19h15, ce sera le monde tel qu'il est. Polémique 1, football 0. On débattra bien sûr de ce qu'il s'est passé au Parc des Princes hier soir. Voilà pour un aperçu du menu, mais tout de suite, c'est avec vous Amandine Bégaud. Bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Les grands titres de l'actualité de ce mercredi 9 décembre.
Et à la une ce soir, Carla Bruni-Sarkozy, invitée surprise au procès de son mari, l'épouse de l'ancien chef de l'État, est venue assister cet après-midi aux plaidoiries de la Défense. Dans ce journal également, les dernières infos autour du déconfinement, l'Église qui lance un appel aux dons, et puis le foot bien sûr, vous l'évoquiez, dans moins d'une heure, reprise du match PSG-Bachar chez Istanbul, interrompu hier soir. Joueurs et arbitres porteront un t-shirt contre le racisme.
Et avant le coup d'envoi, tout à l'heure à 18h50, on sera en direct avec Philippe Sanfourche, en direct du Parc des Princes. La météo, bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Thomas.
Et bien demain, une nouvelle perturbation.
Et ben voilà, une de plus avec de bonnes pluies le matin sur l'ouest du pays, alors surtout entre la Normandie et les Pyrénées, mais le temps sera plus sec l'après-midi avec le retour d'éclaircies. Sur la façade atlantique, les éclaircies seront plus belles à la mi-journée, mais le sud-ouest restera pluvieux. Et sur les régions de l'est, ben là, on aura un ciel voilé, mais plus lumineux. Deux éléments importants, les Pyrénées-Atlantiques sont en vigilance orange avalanche et les Landes en vigilance orange crue. On attend également entre cette nuit et demain matin beaucoup de neige sur le massif central, notamment vers le Limousin. Tout ça dû aux températures qui vont remonter vers l'ouest.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Et pour commencer, direction donc le procès de Nicolas Sarkozy. Début aujourd'hui des plaidoiries de la Défense, on va y revenir. Mais d'abord, une image, celle de Carla Bruni-Sarkozy, présente à l'audience. Bonsoir Anne Le Hénaff.
Bonsoir.
Ce n'est pas anodin, hein, au lendemain des réquisitions, 4 ans de prison, dont 2 fermes, on le rappelle, contre l'ancien président.
Oui, c'est un soutien qui s'est vu et qui s'est entendu. Elle est entrée dans la salle qui bruissait de bavardages d'avant audience et cette salle s'est tue d'un coup. La silhouette altière de Carla Bruni a aimanté les regards, moulée dans une robe en laine grise. Elle a salué plusieurs avocats d'un check du coude, encouragé son mari en lui serrant le bras, puis s'est assise au premier rang, derrière son masque bordeaux. Elle a écouté avec attention pendant près de 3 heures la plaidoirie de l'avocate de son mari, Jacqueline Lafont, qui a démonté une par une les accusations du parquet. Elle soutient que le parquet financier a écrit une sorte de scénario. Les procureurs ont parlé hier de faisceaux d'indices, de coïncidences, de thèses, mais il n'y a pas la moindre preuve, pas le moindre témoignage. Les investigations qui ont duré 6 ans n'ont rien donné. Ce sont des bavardages entre deux amis, entre un avocat et son client. Des écoutes qui ont été interprétées, lance Maître Lafont, qui termine en demandant au juge de relaxer Nicolas Sarkozy. L'ancien président retrouve sa femme, lui prend les mains et ils s'en vont tous les deux, sans un mot.
Anne Le Hénaff au Palais de Justice de Paris pour RTL. Sur le front du Covid, Amandine, ces nouvelles recommandations après la première journée de vaccination hier au Royaume-Uni.
Les autorités sanitaires britanniques déconseillent désormais le vaccin Pfizer-BioNTech à tous ceux qui, dans le passé, ont déjà eu d'importantes réactions allergiques. Bonsoir Marie Billon.
Bonsoir.
Vous êtes la correspondante d'RTL à Londres. On a hier enregistré 2 cas d'allergie notable.
Oui, 2 membres du personnel soignant ont en effet eu une réaction allergique rapidement après avoir reçu leur dose. Alors ces 2 personnes ont de forts antécédents allergiques, hein, au point d'avoir toujours avec elles une dose d'adrénaline. Leurs symptômes hier n'ont pas été précisés, mais on sait qu'elles n'ont pas subi de choc anaphylactique, simplement une réaction anaphylactique qui peut aller de la démangeaison au souffle court. Alors ces 2 personnes ont bien été prises en charge et se remettent. June Rain, qui est la directrice de l'agence du médicament britannique, qui a donc approuvé le vaccin la semaine dernière, a parlé à la BBC.
On sait que des réactions allergiques n'ont pas été détectées lors des essais cliniques poussés que nous avons effectués, mais vu cette expérience, nous avons modifié nos recommandations sans tarder.
Le vaccin Pfizer-BioNTech est donc déconseillé temporairement aux personnes ayant un historique de réaction allergique importante à des vaccins, des médicaments ou de la nourriture. L'agence du médicament a précisé qu'elle surveillait de près ses phases initiales de vaccination et qu'elle lançait une étude approfondie sur ces réactions allergiques. Le reste des milliers de personnes, dont une grande partie depuis 80 ans, qui ont été vaccinées depuis hier, n'ont pas signalé d'effets secondaires inattendus aux autorités médicales.
Merci beaucoup Marie Billon en direct de Londres. Alors ici en France, forcément, ces 2 cas risquent risque de faire peur. On connaît le scepticisme des Français à l'égard de ce vaccin. Et bien ce soir, les médecins se veulent rassurants, à l'image du docteur Pascal Crépé, épidémiologiste.
Ce que l'on sait, c'est que sur les plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont déjà reçu deux doses de ces vaccins, il n'y avait pas de forme grave. Donc on peut espérer que s'il y a des effets secondaires, ces effets secondaires sont très rares, puisqu'on ne les a pas vus sur ces plusieurs dizaines de milliers de personnes. Il peut toujours y avoir une chance sur un milliard que quelque chose se passe, et tant qu'on n'aura pas vacciné un milliard de personnes, cet événement-là, on ne le verra pas. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pour l'instant pas de sujet d'inquiétude, juste de la vigilance à avoir.
Pas de sujet d'inquiétude à avoir, dit ce soir le docteur Pascal Crépé, joint pour RTL par Agathe Landais. C'est dans ce contexte que s'est tenu ce matin un nouveau conseil de défense à l'Élysée. Rien n'a filtré,
comme
ni
d'habitude.
Sur le quintessant, ni sur les fêtes de Noël. C'est demain qu'on devrait être fixé. Nouvelle conférence de presse de Jean Castex. Encore une, vous allez dire, Thomas.
J'ai rien dit.
Bonsoir, Benjamin.
Moi, j'attends
Benjamin
de savoir
Sportouche.
Ce qui va se passer. Alors, j'attends Benjamin.
Bon, alors, quelles sont les nouvelles? Ça risque d'être pas terrible, non?
Ah bah oui, car on est clairement en dessous des 5000 cas voulus par Emmanuel Macron pour passer à la phase 2 du déconfinement. Hier, on était au-delà des 13000 cas. Et objectivement, fait remarquer un proche du Premier ministre, ça ne baisse plus. Mais attention, l'autre indicateur, c'était 3000 malades maximum en réanimation. Mmh. Hein, c'est ce que disait le Président de la République. Et donc, on pourrait y être au 15 décembre. Conclusion, selon une source proche de l'exécutif, vous voyez, les nouvelles seront peut-être moins mauvaises qu'on ne le pensait. Il pourrait y avoir des ajustements par rapport à ce qui était annoncé, mais pas forcément une remise en question totale de la deuxième phase. Elle prévoit notamment, je vous le rappelle, la réouverture des cinémas, des théâtres et des musées, la fin des attestations en journée et un couvre-feu qui débuterait à partir de 21h. Et bien, c'est peut-être sur ce point que les choses pourraient bouger avec un avancement à 20h. Mais rien n'est complètement bouclé ce soir, selon plusieurs sources gouvernementales. Quant à Noël et jour de l'an, c'est le casse-tête de l'exécutif. Difficile d'empêcher les Français de se retrouver le 24 au soir. Quid en revanche de la Saint-Sylvestre? Et bien là, on risque de devoir patienter. Tout pourrait dépendre de l'évolution de l'épidémie dans les jours qui précèdent. Donc moralité, ça sera peut-être pas si mauvais que ça. En termes de nouvelles, on ira peut-être au musée à partir de la semaine prochaine. Il faut attendre, mais c'est ce que nous dit l'exécutif ce soir.
Bon, ça sera peut-être pas si pire, on verra ça demain soir en tout cas. Merci Benjamin Sportouche, chef du service politique d'RTL. Le gouvernement qui a observé tout à l'heure une minute de silence, c'était lors du Conseil des ministres, hommage à Valéry Giscard d'Estaing en cette journée de deuil national. Plusieurs dizaines de personnes, dont le Premier ministre Jean Castex, se sont par ailleurs rendues au musée d'Orsay tout à l'heure pour signer le livre d'or ouvert en l'honneur de l'ancien chef de l'État.
L'Église, elle, lance ce soir un appel aux dons. Avec les deux confinements, plus de quêtes. Les paroisses ont perdu, tenez-vous bien, près de 40% de leurs ressources. 90 millions d'euros en moins dans les caisses. Résultat, donc, elle lance cet appel. Écoutez Ambroise Laurent, en charge des questions économiques à la Conférence des évêques de France.
Donc, tout l'objectif du mois de décembre, c'est de réussir cette mobilisation et de faire en sorte de combler une partie du trou qu'on constate. Au total, 90 millions de pertes. C'est assez simple, pas de possibilité de messe, pas de possibilité de baptême ou de mariage. Il n'y a pas de don possible puisqu'il n'y a pas de liturgie. Donc un gros impact, surtout dans les paroisses. Coutances, moins 50%. À Créteil, moins 40%. Dans le diocèse de Quimper, moins 35%. Il y a des diocèses où ils sont vraiment, vraiment assez limités en trésorerie. Donc ils ont reporté des charges. Ils ont pu faire éventuellement un emprunt. Il va falloir repayer tout ça. Mais là, on donne un coup de collier en décembre parce que c'est le mois de la générosité. On a ouvert maintenant une possibilité de don par SMS au 92-377, eh bien ça, c'est destiné à ce que les plus jeunes rentrent dans cette culture du don à l'Église. Et c'est le moins important pour regonfler un peu les paroisses qui vont en avoir besoin.
Voilà, appel au don de l'Église. Il y en a beaucoup, des appels au don en ce moment. Ambroise Laurent au micro RTL de Marie Guerrier. Dans un instant, on va au Parc des Princes, où le match interrompu hier soir après 13 minutes de jeu va finalement pouvoir reprendre ce soir.
RTL Soir, Thomas Soto. RTL Soir, Thomas Soto.
18h10, la suite du journal avec vous, Amandine Bégaud, et on va donc au Parc des Princes.
Nouveau coup d'envoi dans moins d'une heure maintenant pour le match PSG-Başakşehir Istanbul, interrompu hier soir après des propos racistes attribués à l'un des arbitres. Philippe Sanfourche, bonsoir, vous êtes sur place pour RTL. Est-ce qu'on sait ce qui est prévu? Où en est-on ce soir?
Alors déjà, on s'aperçoit en arrivant au stade que l'UEFA a déployé deux grandes bâches en face de la tribune dont les joueurs vont sortir des vestiaires avec eh bien les logos des deux clubs et inscrit en anglais et en français « No to racism » et « Non au racisme ». Les supporters aussi du Paris Saint-Germain ont pu avoir accès au stade cet après-midi qui reste à huis clos bien entendu, mais ils ont pu déployer deux banderoles avec écrit « Paris uni contre le racisme » et « Soutien à Pierre Webo, fier des joueurs against racism ». Pierre Webo, donc l'adjoint, entraîneur adjoint de cette équipe de Başakşehir, qui pourra être sur le banc de touche ce soir. L'UEFA a levé au moins provisoirement sa sanction, son carton rouge, son expulsion. Il sera là ce soir. En revanche, bien évidemment, l'équipe arbitrale a changé. C'est l'expérimenté monsieur Makiele, hollandais, qui officiera au sifflet ce soir. Et on voit que les joueurs sont en train de sortir, d'ailleurs sous les applaudissements de quelques personnes de l'UEFA. Ils ont tous un t-shirt sur lequel est inscrit non au racisme. Ils vont s'entraîner avec. Les arbitres également l'auront tout à l'heure pour le coup d'envoi. Une photo symbolique sera faite au centre du terrain. Joueurs et arbitres avec le même t-shirt non au racisme.
Philippe Sanfourche en direct du Parc des Princes. Alors il faut le rappeler, c'est la première fois que deux équipes se mettent d'accord pour interrompre un match pour racisme, qui plus est en Ligue des Champions depuis ce matin. Certains, et ils sont nombreux, parlent d'un tournant cet après-midi. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, s'est rendue au FC Montrouge, ancien club de Dembaba, l'attaquant d'Istanbul, qui a été parmi les premiers hier soir à monter au créneau.
C'est normal que le sport prenne sa part à ces combats et je suis vraiment fière que les sportifs se saisissent de ces sujets. Finalement, ils ne sont pas payés des millions juste parce qu'ils jouent au football. Le sport, c'est pas ça. Ils sont payés des millions aussi et beaucoup d'argent parce qu'ils représentent des choses. Voilà, ils ont un rôle à jouer. Et le sport, c'est un formidable relais pour ça. Et les gens qui sont filmés à la télé, qui sont vus et qui sont entendus par notre jeunesse et par nos enfants, eh ben, ils doivent être conscients qu'ils incarnent des choses.
Roxana Maracineanu au micro RTL de Vincent Serrano, PSG Başakşehir Istanbul. Ce sera bien sûr à suivre sur RTL en fil rouge tout au long de cette soirée.
On termine et on finit notre dodoton, 16 dodos avant Noël.
Oui, avec cette idée originale pour votre repas de réveillon, celui-là ou d'autres d'ailleurs, des distributeurs automatiques disponibles 24 heures sur 24, c'est ce que propose le restaurant Les Étangs de l'Abbaye à Longueuil-Sainte-Marie dans l'Oise. Alexandre de Saint-Aignan a testé, reportage.
Face aux 42 casiers réfrigérés, Justine hésite.
Cuisse de canard, sauce griotte, 22 euros pour deux personnes. Tarte aux pommes normande, 7 euros.
Juste devant les portes closes de ce restaurant renommé, cette cliente fidèle vient chercher son repas du soir.
Ce soir, ça va être saumon gravlax.
Le patron des étangs de l'Abbaye, Sébastien, avait commandé ce distributeur géant bien avant l'épidémie pour son service traiteur. Alors avec la fermeture du restaurant, c'est plutôt bien tombé.
Voilà, ça cartonne, ça fonctionne très bien puisqu'on le remplit deux fois par jour.
Yann, le chef, peaufine son tiramisu aux agrumes.
Sur une base de biscuits de Savoie, une mousseline et une crème aux agrumes.
Il y a forcément moins de travail que lorsque le restaurant est ouvert, les salariés se relaient.
Il y en a qui sont célibataires, qui tournent en rond dans leur maison du matin au soir. Je peux vous garantir qu'ils sont ravis de venir travailler, se sentir utile, faire quelque chose à la journée.
Grâce à l'installation du distributeur, les emplois ont pu être conservés. Un moyen surtout de garder du lien avec les clients. En attendant la réouverture du restaurant au plus tôt le 20 janvier prochain.
Reportage signé
d'Alexandre de Saint-Aignan,
pardon, pour RTL.
Merci Amandine, restez bien branchés sur RTL. Dans un instant, Ségolène Royal est l'invité d'actualité d'RTL Soir et c'est en direct.
RTL Soir.